pourrait vibrer à des kilomètres et des kilomètres de distance. Autrement dit, deux brins qui auraient été liés, même s'ils sont séparés, continueront à être liés.
D'interagir.
Un peu, on va dire, voilà, un peu comme voilà, vous avez des jumeaux, ils sont séparés, un jumeau meurt à Los Angeles, l'autre meurt à Tokyo au même moment. Bon, c'est très schématique. Et qu'est-ce qui lierait ces brins? Aujourd'hui, il y a une théorie qui s'appelle les branes. Les branes, ce serait une espèce de membrane, mais la membrane, c'est énorme, hein, c'est notre univers entier, hein, et qui, justement, permettrait à ces brins d'énergie
De rester relié.
de faire vibrer comme les fascias dans le corps,
Oui.
toute la membrane, et ça expliquerait en fait les coïncidences, la synchronicité. Ah tiens, j'ai pensé à machin, et justement je le vois, ou justement il m'appelle. Ça expliquerait aussi que peut-être on ressente des choses de l'après-vie, c'est-à-dire que c'est pas parce que le corps est mort que la bra enfin que les cordes, les brins d'énergie n'existent plus. Enfin, donc la théorie des cordes, en tous les cas, il y a plusieurs théories des cordes, hein. Il y en a même beaucoup avec plusieurs dimensions, etc. Mais en l'occurrence, celle que Benjamin suit,
C'est
celle
la
qu'on appelle la
M.
théorie M, a vocation à pouvoir expliquer à la fois l'infiniment grand, c'est-à-dire la brane, et l'infiniment petit, c'est-à-dire vraiment cette physique quantique, parce que aujourd'hui, les théories d'Einstein, donc l'infiniment grand, l'astrophysique, l'univers courbe, etc., la relativité générale, est incompatible avec l'infiniment petit. Notamment, on ne peut pas appliquer les théories d'Einstein à de l'infiniment petit, ça ne marche pas. Ou alors, ça donne le ch chat de Schrödinger qui est à la fois
Enfin,
mort et
mort et
vivant,
vivant,
et donc c'est n'importe quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'aller plus loin et d'essayer de trouver des théories qui peuvent
concilier
réconcilier
le tout.
le grand, le petit, et éventuellement expliquer l'ensemble de l'univers. Mais moi, c'est ça que j'adore dans les
Comme
physiciens.
Newton, comme Newton.
Ah, mais oui, c'est ça! Et ça, Nicolas, elle se dit, mais il n'y a rien à changer sous le soleil, quoi. Il y en avait un, il essayait de trouver dans son four d'alchimie la théorie du tout, et l'autre, il le fait dans un laboratoire à Saclay, mais c'est pareil. Et je crois qu'on va encore passer quelques siècles à chercher la théorie du tout, enfin, ce qui explique l'univers, parce qu'en fait, pour en discuter avec des scientifiques, on découvre des tas de choses très intéressantes. Et d'ailleurs, j'avais écrit il y a quelques années, enfin même longtemps, un livre qui s'appelait La constante de Hubble,
Oui, bien
qui
sûr.
était comment on applique à nos relations humaines des théories d'astrophysique. Mais en fait, depuis la constante de Hubble, beaucoup de choses déjà ont été découvertes qui rendent presque obsolètes un certain nombre de
Quelques
choses que
choses
je disais
d'écoute,
dans
ouais.
Hubble. Parce que on apprend, on découvre sans arrêt. Et même le télescope James Webb nous apprend des tonnes de choses. Donc ça, je trouve ça absolument passionnant, parce que chaque jour on découvre, on fait des découvertes qui nous apprennent des choses sur nous, sur notre univers, sur le pourquoi, sur le comment.
Voilà, c'est pour ça qu'il faut lire Les Maîtres du Temps, parce que effectivement, on y trouve tout ça et on y trouve même une postface. On va en dire un mot quand même de cette postface.
Alors, ma passion pour la physique et le fait que j'ai cherché à aller plus loin, et notamment je me suis servi pour Newton, j'ai cherché beaucoup, et des bibliographies de Newton, il n'y en avait pas. J'ai trouvé la lettre de Humphrey Newton sur Internet, qui était son assistant et qui raconte comment il a écrit le principe mathématique. Mais il existe une seule biographie de Newton, c'est celle de Jean-Pierre Luminet. Et donc forcément, je me suis plongée, et la personnalité de Newton, j'ai réussi à la cerner à travers le livre de Jean-Pierre Luminet. Et Jean-Pierre Luminet est un astrophysicien, romancier aussi, qui a écrit notamment sur un livre qui s'appelle L'écume du temps, et donc qui pense ces questions. Et j'avoue, j'avais très envie de le rencontrer. Et il se trouve que nous avons quelqu'un, enfin, en commun, un éditeur qui a été son éditeur et que je connais, et qui m'a dit, ah, mais je vais vous mettre en relation, et je lui ai demandé de me lire déjà,
Oui.
et d'écrire une postface, ce qu'il a accepté, et ça, j'avoue que ça a été un grand bonheur pour moi.
Lisez Les Maîtres du Temps, c'est de Stéphanie Janicot, c'est paru chez Albin Michel, c'est à la fois passionnant et ça donne vraiment à penser, c'est un bonheur. Merci beaucoup Stéphanie Janicot, en tout cas, de nous
Merci
avoir offert
beaucoup,
ce
Alexandrine.
livre et
Merci
d'avoir
beaucoup.
accepté d'en parler. Merci et
Merci
à
beaucoup.
bientôt.
Merci, à bientôt.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire.
C'est toujours Radio Libertaire et on est très très en retard, donc on vous souhaite de rester à l'écoute de la radio, de bien vous porter. On se retrouve dans 2 semaines avec Florence Sévos. Au revoir.
Radio Libertaire, Radio Libertaire.
Quand ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Alors, je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.
La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur. Et ça c'est, dites-moi, n'y suis-je point encore, nenni. M'y voici donc, point du tout. M'y voilà, vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages.
C'est partout le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garrote, on vous étripe au Chili. On a beau me dire qu'en France, on peut dormir à l'abri. Des Pinochets en puissance travaillent aussi du képi. Quand un Pinochet rapplique, c'est toujours en général. Pour sauver la République, pour sauver l'ordre moral. On sait comment ils opèrent. pour transformer les esprits. Les citoyens bien pépères en citoyens verts de gris. À coup d'interrogatoire, de carottes et de bâtons, de plongeons dans la baignoire, de gégène et de tison. Il se peut qu'on vous disloque et qu'on vous passe à tabac, qu'on vous suicide en loustoc au fond d'un commissariat. Il se peut qu'on me fusille pour avoir donné du feu, pour avoir joué aux billes avec un petit hébreu. On va t'écraser, punaise, pour avoir donné du pain, pour avoir donné du pèse au petit nord-africain. Il se pourrait qu'on m'accuse avec un petit gourdin d'avoir étudié Marcuse, d'avoir été sartrien. Ils auront des électrodes, ils diront tu veux du jus pour connaître la période où j'étais au PSU. À moins qu'ils me ratatinent pour mon immoralité, pour avoir baisé Delphine, pour avoir été pédé. À moins qu'ils ne me condamnent à mourir écartelé entre l'amour de Roxane et celui du faux Dédé. Il se peut qu'on me douillette pour que je veuille attester. En 1967, je lisais l'Humanité. Il se peut qu'on me tourmente et qu'on me fasse avouer que dans les années 60, j'étais à la CGT. À moins qu'il me guillotine pour avoir osé chanter les marais du Potemkin et les camps de déportés. À moins qu'avec un hachoir, il me coupe les dix doigts pour m'apprendre la guitare comme ils ont fait à Hara. C'est partout le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garrote, on vous étriffe au Chili. Il ne faut plus dire qu'en France, on peut dormir à l'abri. Des Pinochets en puissance travaillent aussi du dépit. Travaille aussi du képi.
Dis, ça fait combien de temps que l'on marche en pleine nuit, à petits pas hésitants, dans le tunnel de la vie. Dis, vers quoi est-ce que l'on va, et pourquoi on y va tous? Pourquoi y en a qui tirent pas, et pourquoi y en a qui poussent? Et d'abord, combien on est? Seuls 10 000 ou 5 milliards. Et d'abord, qui on connaît dans cette armée du brouillard? Le ciel. Le ciel, c'est où? Le ciel, c'est quand? Et c'est quoi ces tout petits points blancs que l'on voit au bout du tunnel, qui vient jamais quand on l'appelle? Est-ce que c'est vraiment ça, le ciel?
Environ combien d'agneaux, environ combien de loups dans les rangs de ce troupeau, où ça bêle un peu partout? Sur qui veillent les bergers, sur qui tirent les chasseurs? Y aurait de quoi gamberger, mais je suis marcheur, pas penseur. Je sais seulement que je n'en peux plus, et que si j'étais débrouillard, elle serait de la revue, la grande armée du brouillard. Le ciel, il
le ciel c'est où, le ciel c'est quand. Il c'est quoi ces tout petits points blancs que l'on voit au bout du tunnel, qui vient jamais quand on l'appelle. Est-ce que c'est vraiment ça le ciel?
À qui appartient la main que je sens là dans la mienne depuis pas mal de chemin? Est-ce que c'est toujours la même? Est-ce qu'elle me connaît seulement? Est-ce qu'elle sait que je suis moi? Est-ce qu'elle m'aimera autant quand enfin elle me verra? Lorsque mes yeux vont s'ouvrir sur une impossible aurore, qu'est-ce que l'on va découvrir? La lumière ou bien la mort? Le ciel, dis le ciel c'est où, le ciel c'est quand. Dis c'est quoi ces tout petits points blancs que l'on voit au bout du tunnel, qui vient jamais quand on l'appelle. Est-ce que c'est vraiment ça le ciel?
Radio Libertaire 89.4.
Avant que tu m'emmènes faire un tour, j'ai plus assez de doigts sur les mains pour compter les tonnes de chagrin qui en finissent pas de noircir les jours. La météo est à l'orage sur le radeau, l'heure du naufrage. De semer les couronnes de fleurs. Quand quand la mort a fait le ménage. Oh, qu'est-ce qu'il en faut comme courage pour sauter du haut sa douleur. Tranche de larmes et tranche de malheur, drôle de goût dans mon jambon beurre. Un vent glacial sur les falaises, pour les oiseaux courriers du cœur. Mais dans la brume, cailloux qui pleure, un ami qui file à l'anglaise. Combien de sept à nos histoires, qui sait le destin, le hasard. Quand sur le coup, le cœur s'arrête. Tout ce qu'on avait remis à plus tard, les marées basses des marées noires. Plus de couleurs sur la palette. Les vendredis qui s'interrogent, de tous ces silences à l'horloge, les larmes qui noient. Combien de pages au nécrologe, des amitiés que le temps déloge, qui n'auront pas pu tout se dire. Plus de couplets pour le chanteur, fini l'espoir, les jours meilleurs. Sur les guitares qui s'ankylosent, affiche à bonheur, ont éteint tout leur projecteur. Serait-ce ainsi l'ordre des choses?
Un bel après-midi dans le dédale du vieux Paris, avec ma partenaire, on était en affaire et je chantais à plein poumon des ritournelles de belles chansons. Dans les ruelles, le vent portait ma voix joyeuse, mes petits couplets. Et c'est là que tu vins, avec ta voix rauque et ton regard bovin. Tu faisais ta ronde dans ton bel uniforme, taser à la ceinture et un QI hors norme. Car tu m'as demandé, vous êtes en train de chanter? J'ai eu envie de répondre que j'étais en train de pondre. C'eût été légitime, merde. Je fais pas du mime et je chantais à plein poumon des ritournelles de belles chansons. Dans les ruelles, le vent portait ma voix joyeuse, mes petits couplets. Puis tu m'as ordonné, papier s'il vous plaît, en précisant que j'étais dans l'illégalité, qu'on n'a pas le droit, qu'il faut pas chanter quand ça nous chante ou qui nous plaît, que ça fait du tapage diurne et que c'est pas si bleu d'une prune. Confiscation des accessoires, en l'occurrence ma guitare, et qu'en cas de rébellion, c'est au poste et tout boxon. Et je chantais à plein poumon des ritournelles de belles chansons. Dans les ruelles, le vent portait ma voix joyeuse, mes petits couplets. J'ai voulu te laisser une chance, j'ai tenté de négocier. J'en appelais à l'intelligence, pensant que tu ne serais pas borné. J'ai évoqué l'histoire de France, les saltimbanques, les troubadours, mais je n'ai vraiment pas eu de chance. T'étais inculte en plus d'être lourd. Tu as répété qu'on n'a pas le droit, que qu'est-ce que ça serait si tout le monde faisait ça, que j'avais beau appeler ça de l'art, que j'étais nuisance, un vrai cauchemar. Et je chantais à plein de poumons des ritournelles, de belles chansons. Dans les ruelles, le vent portait ma voix joyeuse, mes petits couplets. J'ai alors cessé de jouter pour te laisser verbaliser. Mais quand je tendis mes papiers, des spectateurs ont pris le relais, se sont si bien interposés qu'au final tu t'es dégonflé. Et baudruche magnanime, tu m'as absous de mon crime en disant grosse voix, ça ira pour cette fois. Puis tournant talon, ta collègue dans ton sillage m'a glissé en discrétion des compliments sur mon ramage, lâchant en sus t'étais qu'un con, un con aigri, haut en grammage. Du coup j'en ai fait une petite chanson afin de te rendre hommage. Et je la chanterai à plein poumon, ma ritournelle, ma petite chanson. Voix publique en liberté, en rêvant de fraternité. Et je chanterai
as I know you. coming, am I coming through? And we talked about freedom and things, and he told me about what he dreamed. But I knew of that dream long before he had spoke, and a feeling familiarly came around. Listen, man, where have you been for all these years? Man, where were you when I sought you? Man, do you know me as I know you? Am I coming through? Man, am I coming
du pauvre se noue autour du cou. La chanson guimauve, Toscanini s'en fout. Mais il est pas chien, il le lui rend bien, il est éclectique. Sonate ou java, concerto polka, il aime la musique. Le piano du pauvre, c'est le Chopin du printemps. Sous le soleil mauve, des lilas de nos gens. Il roucoule un brin à ceux qui se plaisent bien et fait des avances. Ravel ou machin, c'est déjà la fin, mais v'là qui recommence. Le piano du pauvre se noue autour des reins. Sa chanson guimauve, ça va toujours très loin. Car il est pas chien, toujours il y revient, il a la pratique. C'est pour ça d'ailleurs que les histoires de cœur finissent en musique. Le piano du pauvre est un joujou d'un sou. Quand l'amour se sauve, y a pas que lui qui s'en fout. Car on n'est pas chien, on le lui rend bien, on est éclectique. Jules ou bien machin, c'est déjà la fin, mais là qu'on y repique. Le piano du pauvre, c'est pas qu'il est voyou. La chanson guimauve, on en prend tous un coup. Car on n'est pas chien, on a les moyens et le cœur qui plisse. Quand Paderewski tire de son étui l'instrument de service. Le piano du pauvre n'a pas fini de jacter sous le regard fauve des rubans du quartier. Pendant que les barbus du vieil institut posent leur bésicle pour entendre au loin le piano moulin qui leur fait l'article. Le piano du pauvre dans sa boîte à bobards se tape un air guimauve en se prenant pour Mozart. S'il a l'air grognon et joue sans façon, déjà va perverse, c'est qu'il est pas chien et puis qu'il faut bien faire marcher le commerce.
théâtre. C'est pas un art pour impuissants, consommateurs obéissants, galériens, rivés à leur banc par trois chaînes. Le théâtre, c'est pas de la bouillie mâchée par des programmateurs, non, c'est une viande à déchiqueter soi-même. Au théâtre, bien sûr, tout est en carton-pâte. Le palais de Néron en plâtre et quatre planches sont de colon, la frégate. Mais au théâtre, l'acteur se bat, il vient risquer tout, tous les soirs et sans tricher, ainsi que sur son fil d'acier, l'acrobate. Le théâtre, c'est pas du tout la maison close où sur la cheminée tu poses ton fric et dis « Fais-moi des choses, j'attends au théâtre. » Faut y aller comme d'autres à l'église, avec la foi sous sa chemise, la foi qui tout idéalise, le printemps dans le cœur, l'envie de croire et de vibrer, de recevoir, de renvoyer la balle, de participer à la fête. Le théâtre, c'est un échange, c'est une main tendue de la scène au gradin, où le public la prend ou bien tout s'arrête. Le théâtre, peut-être un des tout derniers lieux où l'on peut se baigner les yeux, où l'esprit souffle encore un peu quand même. Au théâtre, j'y ai vu de drôles de gens risquer jusqu'à leur dernier franc pour que vive trois heures de temps la scène. Ces gens-là, dans un commerce respecté, HLM en contreplaqué, se seraient déjà retirés, fortune faite. Mais voilà, le théâtre est un loup-garou qui s'en fait mordre en devient fou. Moi, c'est la grâce que je vous souhaite. Le théâtre est un loup-garou qui s'en fait mordre en devient fou. Moi, c'est la grâce que je vous souhaite.
Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? J'ai appris qu'il ne faut mentir jamais, qu'il y a des bons et des mauvais, que je suis libre comme tout le monde, même si le maître parfois me gronde. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Que les gendarmes sont mes amis et tous les juges très gentils, que les criminels sont punis pourtant, même si on se trompe de temps en temps. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Que le gouvernement doit être fort, a toujours raison et jamais tort. Nos chefs sont tous très forts en thème et en élit toujours les mêmes. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui?
J'ai appris que la guerre n'est pas si mal, qu'il y en a des grandes et des spéciales, qu'on se bat souvent pour son pays, et peut-être j'aurai ma chance aussi. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école.
Radio Libertaire 89.4.
Il n'en faut voir que la lumière, Ernesto Che Guevara. Trente jours durant, entre le vent
et les nuages de la Sierra. Derrière nous la mer, les plaines, les rizières de vin, les épines, la poussière, les piqûres et le vin. Notre peau n'est plus que manteau de misère. Brûle le champ de canne lorsque s'allument les brasiers. Il n'en faut voir que la lumière. Ernesto Che Guevara. Il y a 12 ans déjà, du port de Tuxpan, tout feu éteint, sortait le grand-mât. Les vigies allaient et venaient, oh, le parfum de la feuille cubaine. Lorsque s'allument les brasiers, il n'en faut voir que la lumière. Ernesto Che Guevara. D'autres terres dans le monde réclament mes modestes forces. Je laisse à Cuba la part la plus pure de mes espérances de constructeur. Et ce que j'ai de plus cher parmi les êtres que j'aime, les honneurs, ça m'emmerde. Lorsque s'allument les brasiers, il n'en faut voir que la lumière. Ernesto Che Guevara. Sur les Yankees, frappe dur. Guatemala, de Colombie et du Venezuela. Sur les Yankees, frappe dur. Frère de Bolivie et du Brésil. Sur les Yankees, frappe dur. Lorsque s'allument les brasiers, il n'en faut voir que la lumière. Ernesto Che Guevara. Peu importe le lieu où me surprendra la mort, qu'elle soit la bienvenue, pourvu que notre appel soit entendu, que d'autres mains se tendent pour empoigner nos armes. Hasta la victoire.
Dans un pauvre pueblo, à marcher au soleil, des indiennes en poncho, couleur de l'arc-en-ciel. Elles ont des chapeaux tout ronds, le geste rare, les visages sont beaux et gravent les regards. Quelques petits chevaux broutent le court gazon, fumée des braseros, hurlant de la mission. Les hommes sont partis pour la plupart au loin, mineurs au fond des puits, dans le cuivre et l'étain. Et bien peu reviendront, et bien peu survivront. Ici on meurt avant d'avoir les cheveux blancs. L'une tient son petit serré contre son sein, l'autre vend quatre fruits qu'elle tend dans sa main. Comme si c'était écrit dans des livres anciens, tous les jours de leur vie connaîtront que la fin. Les hommes, ceux qui restent, ces ombres accablées, cherchent un oubli céleste dans l'alcool frelaté. Et le pas des soldats, jamais vraiment absent, pèse de tout son poids sur tout le continent. Suffit que tu sois indien, voilà que tu n'es rien. Ici on meurt avant d'avoir les cheveux blancs. C'est plus odieux un cas sur des rochers sanglants qu'aujourd'hui que là-bas on offre les vivants. Mais le monde hypocrite immole les humains sur l'autel de Wall Street et dit que tout va bien. Qui est le plus cruel, le prêtre et son couteau? ou l'homme de la Shell, United Fruits and Co. qui rase la forêt, décime les tribus pour leur noir le bois et quelques diamants de plus, punis sans jugement depuis la nuit des temps. Ici on meurt avant d'avoir les cheveux blancs, on meurt avant d'avoir les cheveux blancs.
Du monde, et m'écorcher les lèvres à ses diamants, et puis dans la Jaguar brûler son léopard avec une cigarette anglaise. Et s'envoyer des drailles aux Gordon et des Pimps number one avant que de filer chez Maxims, grand seigneur, dix sacs aux chasseurs. Enfin, poser ma pelle et chauffer ma gamelle. Oh, 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 oh.
J'ai passé mon temps à me dire qu'il fallait du temps pour grandir. Je n'ai pas vu le temps, à vrai dire, passer en courant sans rien dire. Maintenant je crois qu'il est enfin temps de mentir au temps qu'a menti le temps. Lui dire que c'est moi qui dit enfin temps, que même à 100 ans j'aurai toutes mes dents. J'ai croisé pourtant un sourire qu'avait fait le temps d'un souvenir il y a fort longtemps, sans se dire qu'il durait autant qu'un empire. Maintenant je crois qu'il est cependant dur de se contenter du mauvais temps. Lui dire que c'est moi qui décide à présent, que même à 100 ans j'aurai toutes mes dents. Hey autant pour de rire, autant qui pourtant sans rien dire n'a pas pris le temps d'un sourire. Maintenant je crois qu'il est important de sourire autant qu'a menti le temps. Lui dire que c'est moi qui dit en chantant que même à 100 ans j'aurai toutes mes dents.
pourquoi que t'as pris mon oreiller, pourquoi que t'as pris mes beaux souliers, mon pain, mon vin et ma petite sœur pour la faire mendier rue Jules Coeur. C'est pas de ma faute, je ne pouvais pas faire autrement, tu comprendras. C'est pas de ma faute, tu le verras. C'est pas de ma faute, tu le verras. Pourquoi que t'as pris l'homme de ma vie simplement pour passer la nuit? Pourquoi que t'as laissé ton vieux père dans un caniveau l'autre hiver? C'est pas de ma faute, je ne pouvais pas faire autrement, tu comprendras. C'est pas de ma faute, tu le verras. C'est pas de ma faute, tu le verras. Pourquoi que t'as mis du verre pilé dans le café du vieil Amédée dont tu as pris l'appartement une heure après l'enterrement? C'est pas de ma faute, je ne pouvais pas faire autrement, tu comprendras. C'est pas de ma faute, voici pourquoi je suis égoïste.
Camarades, la direction de nos usines Liema Sormel a annoncé hier qu'elle prendrait la parole devant les travailleurs à 14h pour exposer les décisions qu'elle aura prises. Ces décisions qui n'ont pas été exposées aux délégués provisoires. Nous ne devons pas accepter une telle proposition. Nous avions jusqu'à ce jour des dialogues de sourds avec la direction. Et sur accord des deux parties, nous avions convenu d'une rencontre lorsque la direction aurait quelque chose de positif à nous communiquer. Or, il s'avère aujourd'hui que la direction demande la parole sans avoir discuté avec ses délégués provisoires. C'est déjà une preuve que le directeur ne veut pas reconnaître le syndicat au sein de son entreprise. Voyez ce que sera la liberté syndicale à Yéma si nous n'imposons pas notre volonté de la faire respecter. Un vote à bulletin secret a été imposé hier par la direction. Nous ne pouvons pas non plus l'accepter. Ce ne sont pas les patrons ni le gouvernement qui ont demandé aux ouvriers de faire grève. Ce n'est pas non plus eux qui aujourd'hui viendront nous imposer la façon dont nous poursuivrons notre lutte pour faire aboutir nos revendications. Je voudrais attirer votre attention, comme l'ont fait déjà des camarades, sur le fait que la direction se retranchait derrière des décisions gouvernementales. Mais le gouvernement n'a pris aucune décision concernant les revendications essentielles. Ce qui veut dire que si aujourd'hui vous acceptez de reprendre le travail, vous avez accepté de faire grève pendant 10 jours pour ne rien obtenir. Les 10% d'augmentation ne veulent rien dire si nous n'obtenons pas l'indexation sur le coût de la vie.
Radio Libertaire 89.4.
L'avenir ne viendra pas tout seul si nous ne prenons pas des mesures. Attrape-le par les ouïes comme sa molle, attrape-le par la queue pionnier. La commune n'est pas une princesse féerique pour que d'elle on rêve la nuit. Calcule, réfléchis, vise bien et avance, ne serait-ce que dans le détail. Le communisme ne réside pas seulement dans la terre, dans la sueur des usines, mais aussi chez soi, à table, dans les rapports, la famille, les mœurs. Celui qui, à longueur de journée, grince des jurons comme une charrette mal graissée. Celui qui se pâme quand la balalaïque à jeun. Celui-là n'a pas atteint la taille de l'avenir. Sur les fronts, jouer des mitrailleuses, ce n'est pas en cela seulement qu'est la guerre. L'attaque de la famille, du logis, n'est pas pour nous moindre menace. Qui n'a pas résisté à l'emprise domestique et dort dans le bien-être des roses en papier? Celui-là n'a pas atteint la taille de la puissante vie à venir. Comme une pelisse, le temps aussi se mange des mythes quotidiennes, le vêtement de nos jours poussiéreux. À toi de le secouer comme ça vole.
Mon lit, ce n'est pas un lit, c'est un océan grand comme un tapis.
Vous êtes sur Radio Libertaire et c'est le moment de l'émission CNT Éduque. Ne froid.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. On se retrouve comme chaque deuxième samedi du mois pour l'émission de la CNT Éducation 93, pour aujourd'hui aborder la question des caisses de grève, dans les luttes évidemment, avec pour invité Gabriel Rosenmann.
Bonjour.
Bonjour. Donc on t'a invité parce que tu rédiges en ce moment une thèse consacrée à l'histoire socio-histoire des caisses de grève à l'EHESS. Et aussi, je mentionne que tu étais militant à Sudrail avant de faire cette thèse à Saint-Lazare, il me semble.
C'est bien ça, la gare Saint-Lazare.
Pour commencer, pour te présenter un petit peu plus, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à cet outil un peu central dans les luttes? Pourquoi, peut-être avant que tu te présentes, j'aimerais dire que pourquoi on a décidé de faire cette émission, enfin de consacrer cette émission à ce sujet-là, c'est que c'est un outil qui est central dans nos luttes, que ce soit des mouvements sociaux ou des conflits plus localisés, mais que c'est souvent un sujet qui est mal connu, dont l'histoire est mal connue, ce qui amène à souvent réinventer des choses qui existaient déjà, ce qui n'est pas si grave, mais surtout ce qui est plus grave, d'oublier des choses et d'en perdre des pratiques, qui est peu discuté, donc souvent dédié, enfin laissé à une gestion un peu technique, à responsables syndicaux, pas que syndicaux, mais en tout cas des gens plus expérimentés. La pratique, les connaissances se diffusent peu et sont peu discutées parce qu'il y a souvent des implications, des choix stratégiques et qu'on peut remettre en question, qui sont des choix politiques en quelque sorte. Et voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on aimerait en parler, en abordant plusieurs aspects, plusieurs exemples. Par exemple, on va parler de l'Ibis des Batignolles, on va parler de la caisse de grève de la CGT Infocom, qui est plus qu'une caisse de grève syndicale, mais voilà. Et un peu de notre mouvement Plan d'urgence 93, dont on a déjà parlé à cette émission. Et voilà, donc, et pour revenir un peu, déjà pour te présenter, comment tu étais amené à retrouver... Comment tu t'es retrouvé à étudier les caisses de grève?
Plus ou moins avec le même raisonnement que tu viens de faire, c'est-à-dire que c'est un sujet qui est décisif et qui pourtant est très peu discuté, étudié. Et en fait, le seul moment où ça discute un peu largement de caisses de grève dans les milieux militants, c'est quand on est en grève. Et sauf qu'en général, à ce moment-là, il est un peu trop tard pour établir une stratégie et faire autre chose que parer à l'urgence. Et donc moi, c'est dans ces situations-là que j'y étais confronté aussi. À la gare Saint-Lazare, la période où j'étais à la SNCF, on a eu plusieurs longs conflits locaux et nationaux. Notamment à partir de 2010, on a eu deux grèves reconductibles, une en 2014, une en 2016, et après il y a encore eu 2018 et 2020. Et dans les premières de ces expériences-là, en venant du militantisme étudiant, où c'était une pratique... pas en tant que tel pour nous, mais l'idée de collecter de l'argent pendant la grève, c'était quelque chose de plutôt fréquent. Et donc, en arrivant à la SNCF, ça fait partie des choses que j'ai discuté dans les AG de grévistes où j'étais, et je me heurtais assez systématiquement à un mur. Et c'est qu'en 2016, où on a réussi à mettre en place la première caisse de grève à Saint-Lazare, la première depuis la grève de 95, qui en fait avait laissé des mauvais souvenirs. Et
la caisse de grève spécifiquement ou la grève en général?
Non, la caisse de grève.
La caisse de grève.
Non, la grève fait partie des moments de gloire de la corporation cheminote dans l'histoire sociale de ce pays. Mais là où les caisses de grève, parce que c'était pas centralisé, avaient été réparties, j'ai même pas réussi vraiment à découvrir les règles qui avaient été mises en place selon les endroits, mais à la fois à Saint-Lazare, mais aussi ailleurs. Il y avait le souvenir, en tout cas 10 ans après, que ça avait été réparti de manière opaque, inégalitaire, et que du coup c'était pas quelque chose à refaire. Et donc il a fallu plusieurs années de discussion et plusieurs expériences de grève longue pour que la question redevienne d'actualité. Et donc en 2016, ça correspondait, on y reviendra, à la création de la caisse de grève de la CGT Infocom, dont on a bénéficié à Saint-Lazare, et qui